Carrefour des arts. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts aujourd'hui vous emmène à Moulins, Moulins-sur-Allier, où un musée particulier recèle de richesses. Il s'agit du musée de la Visitation. Alors qu'est-ce que la Visitation, me direz-vous? Il s'agit d'un ordre religieux fondé par Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Saint François de Sales rêvait effectivement d'une congrégation où seraient exclues les pénitences corporelles, mais où également les sœurs se livreraient entièrement à l'amour de Dieu et à la pratique des petites vertus. D'humilité, de patience, de douceur qui oblige au renoncement continuel et à l'oubli de soi. Le monastère fondé à Moulins fut établi en 1616. Alors depuis 1991, les amateurs d'art sacré trouvent dans le musée Regard sur la Visitation l'histoire d'un grand ordre religieux. Nous partons donc visiter, du plafond à la cave, deux maisons du 15e et 17e siècle au cœur de la ville de Moulins qui accueillirent les religieuses. Gérard Picot, administrateur du site, est notre guide. Il commence par un retour historique détaillé de la fondation de l'ordre à Moulins.
Le musée de la Visitation est né du souvenir de la mort de Sainte Jeanne de Chantal, la fondatrice de l'ordre de la Visitation avec François de Sales, laquelle est décédée à Moulins en 1641. Le monastère de Moulins devait fermer et les religieuses nous ont demandé de garder le souvenir de cet ordre, donc troisième monastère de l'ordre à Moulins. Nous avons donc commencé de rassembler quelques objets. Nous avons eu la chance d'avoir les collectivités locales, le maire de Moulins à l'époque, Paul Chauvat, et Jean Cluzel, qui était président du conseil général sénateur, qui nous ont aidés à mettre sur place cette exposition. Il y avait 600 objets le jour de l'inauguration en 1992. Nous en gérons aujourd'hui plus de 5600. Le but est donc de promouvoir l'ordre de la Visitation, bien sûr, sa spiritualité, son histoire, son patrimoine historique. Les sœurs qui gardent tout cela précieusement derrière leur mur de clôture ont choisi, et c'est, je le signale, le seul ordre en France, de façon aussi importante, de montrer ces richesses patrimoniales, de les montrer au public, de les dévoiler.
Eh bien, on va peut-être pouvoir maintenant commencer cette visite, si vous êtes d'accord, et vous allez pouvoir nous expliquer peut-être plus en détail quelques objets qui font la richesse de ce musée, même si tous les objets nécessiterait d'avoir un petit mot.
Oui, ce sera difficile. Nous trouvons là dans une salle toute nouvelle qui s'appelle la chambre des ornements, donc la sacristie intérieure où sont conservés les très beaux textiles des sœurs. Donc vous voyez bien sûr tout autour de vous de nombreux trésors exposés, de toutes sortes de confections, des broderies d'or, des broderies d'argent avec des lames, etc. Mais puisque vous voulez un objet, eh bien, je pense que le voile de calice qu'admire Monsieur le roi Ladurie est tout à fait extraordinaire puisqu'il a été taillé avec la chasuble dans une robe ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. Nous avons un grand nombre d'objets dont nous possédons toute l'histoire, la traçabilité, qui a brodé, qui a offert telle pièce d'orfèvrerie, ce qui constitue une base de données exceptionnelle.
Alors justement, on va peut-être pouvoir avancer vers cette pièce. Comment cette pièce est arrivée jusqu'ici au musée de la Visitation, Gérard Picot ?
Cette pièce est arrivée parce que le monastère de Troyes, qui est un des premiers à avoir participé à Regard sur la Visitation, a eu au XIXe siècle une religieuse qui s'appelle la mère de Salles-Chapuis, qui était une, on peut dire, morte en odeur de sainteté. Et cette personne est d'origine suisse. Son père fut suisse sous le roi Louis XVI et a protégé donc le roi lors de son départ des Tuileries. Tous les monastères de France savaient l'attachement de la mère de Salles-Chapuis à la monarchie française, et donc les monastères, pour lui faire plaisir, essayaient d'avoir des tissus provenant de la famille royale. Et à la vente du garde-meuble des Tuileries en 1848, le second monastère de Paris, rue de Vaugirard, a eu la possibilité d'acquérir une robe et ensuite de la faire tailler en chasuble et de l'offrir à la mère de Salles-Chapuis.
La robe, vous le disiez tout de suite, c'est la robe de Marie-Antoinette.
Voilà, la robe de Marie-Antoinette, lorsqu'elle est venue d'Autriche en France. Suivant le protocole de la cour de France, eh bien, il fallait qu'elle quitte tous ses vêtements d'Autriche et on l'a habillée en particulier dans son trousseau avec celle qui fut une robe et maintenant chasuble.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous décrire cette chasuble pour nos auditeurs qui nous écoutent? Elle est richement ornée.
C'est un très beau tissage à fond d'argent, rebrodé de petites fleurettes, de pensées. C'est extrêmement délicieux. Et il y a un petit chemin noué avec de ravissants petits nœuds Louis XVI, comme on les voit dans le mobilier ou sur également les tentures. Et elle a été christianisée de façon très délicate par une croix de Malte en dentelle au fuseau en argent. Cette même dentelle l'entoure sur les quatre côtés.
Voilà, donc cette pièce a été en fait personnalisée.
Oui, tout à fait, parce qu'il le fallait pour le culte, mais on a choisi tout de même au XIXe siècle de rappeler ce souci quand même un petit peu de la vieille France avec cette croix de Malte.
On va peut-être pouvoir poursuivre. Alors, nous sommes dans une pièce où cette fois-ci, nous avons le portrait de la duchesse de Montmorency. Vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, en effet, la duchesse de Montmorency, épouse du célèbre duc décapité dans la cour du Capitole de Toulouse pour avoir conspiré contre le roi et surtout Richelieu avec les grands de France, eh bien, la duchesse a été enfermée au château de Moulins. Elle était très proche de la Visitation et elle, dès qu'elle a eu sa liberté, elle a pu acquérir une maison située contre le monastère qui était encore restant, puisque le monastère de Moulins, même s'il est le troisième de l'ordre, c'est 1616, je rappelle la fondation en 1610, eh bien, la duchesse a réfléchi sur une vie religieuse. C'était une grande dame, puisqu'elle était née princesse Orsini, qui a donné des cardinaux et papes à l'Église. Elle avait une fortune considérable qu'elle a mis, après l'avoir retrouvée, au service de la Visitation pour reconstruire un magnifique monastère à Moulins, une chapelle somptueuse, et a ensuite fait venir les restes mortuaires de son époux de Toulouse à Moulins. Et le mausolée du duc de Montmorency est un des plus beaux exemples de cette architecture en France. Elle reçoit le voile de la mère de Chantal et elle meurt à Moulins en 1666 comme supérieure, mais surtout elle est à l'origine, on peut le dire, de l'avancement sérieux du procès de la canonisation de Saint-François de Sales, car ses relations à Rome lui ont permis d'arranger bien les choses.
Donc c'est un des grands personnages historiques qui a marqué Moulins.
Tout à fait, elle a été d'une très grande générosité pour la ville de Moulins, elle a fait construire l'hôpital Saint-Joseph, elle a fait construire également des bâtiments pour l'hôpital général. La ville de Moulins lui est très reconnaissante. Alors, nous avons donc ce retable qui a été réalisé pour la Visitation de Romans en 1702. Il est en bois doré, mais il est très intéressant car il représente le début de ce culte au Sacré-Cœur suite aux apparitions de par le monial à Marguerite Marie à la coque, puisque sur la porte du tabernacle, vous avez le cœur du Christ rayonnant, entouré de la couronne d'épines. Ce retable a une histoire particulière puisque le régiment de Besançon, de passage à Romans, s'est consacré au Sacré-Cœur devant ce retable.
Est-ce que vous pourriez nous le détailler un peu, ce retable ? Vous avez dit quelques mots. Quels seraient les détails qu'on pourrait donner aux auditeurs qui nous écoutent ?
Il comprend deux statuettes. Une statuette qui représente Saint Augustin tenant son cœur et de l'autre côté, Sainte Catherine d'Alexandrie qui est extrêmement représentée dans l'iconographie du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Il est doté dans la partie supérieure d'une niche que l'on appelle la niche d'exposition pour éventuellement exposer le Saint-Sacrement, donc grâce à l'ostensoir. un certain nombre de chandeliers en bois doré, bien sûr, en garnissent les marches. Il est placé sur un autel donc, qui arbore un antependium ou parement d'autel réalisé par les visitandines du monastère de Poitiers en vue des fêtes de canonisation de Sainte-Jeanne de Chantal en 1767. Mais vous allez pouvoir me dire, mais combien de temps ont-elles mis pour le réaliser ? Eh bien, en fait, plusieurs années, voire peut-être une décennie, puisque nous savons, d'après les annales des monastères, qu'elles travaillaient dès la mort de Saint-François de Sales pour la future canonisation de Saint-François de Sales. Ça, nous avons une chasuble où Jeanne de Chantal, donc avant 1641, a travaillé à l'ornement et qui n'a servi qu'en 1665. Donc, les sœurs s'y prenaient à l'avance, si je puis dire, puisqu'il fallait faire un parement, les chasubles, les dalmatiques, les chapes et les parements des petits autels. Aujourd'hui, nous conservons plus de 1800 pièces textiles du XVIIe siècle au XXe siècle, ce qui nous confère, paraît-il, d'après les experts, le plus bel ensemble cohérent de cette époque.
Et à chaque fois, ce sont des dons ou ce sont des acquisitions ? Vous achetez ? Comment ça se passe ?
Alors, tout ce que Regard sur la Visitation gère aujourd'hui est constitué uniquement de dépôts des monastères de l'ordre de la Visitation. Les monastères en sont toujours propriétaires. Ils l'ont seulement confié à l'association Regard sur la Visitation. Nous avons l'approbation du Conseil pontifical pour les biens culturels de l'Église, puisqu'il est évident que tout cela représente un patrimoine extrêmement important, extrêmement riche. Et notre but est également de pouvoir œuvrer pour les autres musées. Nous venons de prêter 24 pièces extrêmement précieuses au musée de Fourvière pour une grande exposition inaugurée par le cardinal Barbarin. Dans Chasubillé, vous avez ici une broderie de Venise, de la fin du XVIIIe siècle, qui vient du monastère de Salo, puisque nous avons 7 monastères d'Italie qui participent à Regard sur la Visitation. Et nous avons simplement commencé de parler de Regard sur la Visitation depuis une année seulement. Donc il y a encore beaucoup d'espoir, puisqu'il y a plus de 20 monastères de l'ordre en Italie. Un autre exemple de tissu vers 1820 sur un drap d'or brodé d'argent. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir toutes les époques, en fait. Et nous les avons. Et toujours en parfait état. Alors voilà une relique. Nous parlions tout à l'heure de Saint-François de Sales. Eh bien, c'est une chasuble portée par François de Sales dans le Chablais. Donc, lorsqu'il réévangélisa le Chablais, et jamais contre ses frères protestants par la force, toujours par la parole, par la douceur. Alors, je tiens beaucoup à ce tiroir parce qu'il représente, à travers cette partie de décor, les fêtes de la canonisation de Sainte-Jeanne de Chantal en 1767 et en 1751 sa béatification, en 1767 sa canonisation. Le monastère de Pignerolles en Italie conserve encore toute la décoration faite par les sœurs de la chapelle que vous apercevez ici photographiée et elles nous en ont confié plusieurs parties. Malheureusement, la Révolution française a tout détruit pour récupérer l'or, puisque bien sûr, c'est de l'or. En France, il n'en existe plus d'exemple et le monastère de Pignerolles le possède dans son entièreté. Voilà une broderie du XVIIe siècle qui vient du monastère de Salo, donc dans l'Italie du Nord. Et c'est une très très belle pièce avec les armes de l'ordre, à l'origine un tissu profane qui a été christianisé. Alors les armes de l'ordre, donc, c'est le cœur transpercé de flèches surmonté d'une croix, avec une couronne d'épines et au centre, les initiales de Marie et de Jésus, liées. Alors ça, c'est un tableau qui date de 1661 pour la béatification de François de Sales. Mais au-dessus, cette allégorie d'une jeune femme qui choisit sa voie, qui réfléchit à choisir sa voie. En fait, ce tableau a été commandé pour le noviciat du monastère de Mâcon au milieu du XVIIe siècle. Vous voyez que le personnage principal est le Christ qui porte sa croix. Il marche sur un chemin qui mène vers la lumière, vers la grâce, vers le paradis. Et le Christ parle. Il dit « Celui qui me suivra dans les peines et souffrances aura par mon moyen le ciel pour récompense. » Il porte sa croix et vous avez de part et d'autre du personnage central, donc Jésus, une femme qui est habillée de la même façon, sauf que les vêtements sont inversés quant aux couleurs. Celle de gauche s'apprête à suivre le Christ sur ce chemin parsemé de pierres, d'épines et de croix. Elle tient une croix à la main et elle répond au Christ « Tous ces mots, ô mon Dieu, sont très suaves et doux à l'âme qui vous aime et vous prend pour époux. » Donc elle va choisir sa voie et rentrer à la visitation. Par contre, comme toute âme pour la religion catholique est libre de sa destinée, elle peut se détourner du Christ. Et là, elle marche sur un tapis de fleurs, elle a un éventail, elle a des bijoux, et un petit diable l'amène tout doucement vers les rougeoiements de l'enfer.
La première bande dessinée ?
Une des premières, en tout cas, nous ne savons pas tout, mais pour l'ordre de la visitation, c'est le seul exemple qui existe. Nous sommes devant des objets qui ont appartenu à François de Sales, en particulier cet autel portatif, donc vous voyez de petites dimensions, en bois, avec les munis de poignées, qui lui a servi pour évangéliser le Chablais à la fin du XVIe siècle. Nous avons également son coffret de voyage, mais ses gants épiscopaux, des burettes, son saphir ou sa croix pectorale, mais encore aussi quelque chose de rare, c'est son chapeau épiscopal. Donc, je vous le rappelle, François de Sales est mort en 1622.
Où est-ce qu'il s'est déplacé, par exemple ?
Alors, nous savons assez scrupuleusement, ce qu'il a fait lors de sa reconquête, entre guillemets, toujours par la douceur, toujours par la douceur, du Chablais où il couchait. Il célébrait donc dans des églises en ruine, dans des granges, dans des endroits vraiment auxquels on ne penserait pas aujourd'hui. Sa vie était menacée et jamais il n'a souhaité la force pour le protéger.
Et cet hôtel est en bois. Comment justement vous avez fait pour le conserver aussi bien, parce qu'il a quand même quelques années d'âge ?
Alors oui, tout à fait. Eh bien, les sœurs, vous voyez, il est peint en faux marbre. Et si on regarde dessous, il y avait une couche déjà plus ancienne de faux marbre. Bon, simplement, elles l'ont réapproprié, suivant les termes qu'elles emploient souvent. Nous avons réapproprié, Monsieur Picot, l'objet. Mais comme c'était une relique, elle n'y touchait pas trop. La qualité des textiles et de tout ce qu'elle conserve est étonnante, parce que bien sûr les sœurs sont des femmes et elles sont très attentives et très prennent beaucoup de précautions, très soigneuses.
Et sur cette petite malle, est-ce qu'elle a une histoire particulière ? Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter dessus ?
Voilà, vous êtes tombé bien pile. Oui, elle a une très très belle histoire, puisque cette mallette où François de Sales transportait des objets de culte a été donnée par Sainte Jeanne de Chantal elle-même à la mort de François de Sales à Monseigneur Camus, qui était un grand ami de François de Sales et qui était évêque de Belley, et qui a ensuite fait construire à Paris un hôpital. Il a été conservé, ce coffret, dans la bibliothèque de cet hôpital à Paris. À la Révolution, tout a été massacré et ce coffret a pu être sauvé avec tout ce qu'il contenait. Et c'est vrai que lorsqu'on nous l'a confié en l'année 2004, nous avons été vraiment émus de l'ouvrir et de pouvoir sortir les gants, le rocher de Saint-François de Sales, ces bas liturgiques qui étaient toujours intacts depuis que Sainte-Jeanne de Chantal les avait déposés.
C'était un coffret surprise.
Sans doute, oui, et de belles surprises. Ouais. Nous sommes ici donc dans la salle forte qui renferme donc l'orfèvrerie liturgique des Visitandines, et je le précise, qui ne servent pas, parce que bien sûr nous n'avons pas dépouillé les monastères des objets liturgiques dont elles se servent pour les dimanches ordinaires ou pour les jours de grandes fêtes. Devant vous, en effet, nous admirons cette aiguière de 1631 de l'orfèvre Lucas Neusser à Augsbourg, qui est tout à fait exceptionnelle. Le bassin est à décor auriculaire, donc rappelle encore la Renaissance. Il est décoré de scènes avec, rappelant l'eau. Vous y avez des dauphins, des cygnes et des monstres marins chevauchés par des personnes mythiques. Et l'aiguière a été christianisée par les sœurs, puisqu'on y voit un petit enfant Jésus tenant la croix. Cette aiguière a appartenu à la famille de la Luzerne, une grande famille française, et elle a été donnée à l'entrée au monastère de la Visitation de Caen par la famille. Elle est en vermeil et elle a été sauvée à la Révolution française par le sacristain qui a pu pénétrer dans le conduit de cheminée au péril de sa vie, car il a failli rester coincé, pour la sauver ainsi que d'autres objets, car en France, à notre connaissance, il n'existe plus d'objets semblables.
À quoi sert une aiguière, en fait ?
Une aiguière, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, puisqu'on en parle avec Ponce Pilate lorsqu'il se fait laver les mains au moment de la Passion du Christ. L'aiguière est le signe d'accueil chez les bénédictins, par exemple. Le père abbé invite dans un monastère à se laver les mains, donc la personne est bienvenue. Et là, dans la liturgie catholique, l'aiguière était réservée à l'évêque pour les messes pontificale. Mais nous avons aussi, bien sûr, calice, ciboire, ostensoire très précieux. Il nous faut faire des choix pour votre émission. Mais ce qui nous touche beaucoup, c'est un calice qui est du XXe siècle et qui a été offert par une dame de Versailles lorsqu'elle est entrée au monastère de Chartres. Cette dame était d'une famille et son époux lui avait offert pour ses fiançailles un somptueux bracelet de Falise. Falise est un joaillier français, élève de Fabergé. Et donc elle est allée voir Falise, qui n'est donc pas un orfèvre liturgique, avant qu'elle ne rentre au couvent, puisqu'elle était veuve, de rassembler tous ses bijoux, ceux auxquels elle tenait le plus, pour le Seigneur, pour donc le culte eucharistique. Et Falise a réalisé un calice extrêmement curieux, avec un pied très important, une coupe beaucoup plus étroite, mais qui, en fait, met à l'honneur le solitaire de cette personne, et surtout ce bracelet séparé en deux parties, avec des émaux absolument somptueux.
Une pièce qui est entièrement créée à partir des bijoux qu'elle possédait.
Tout à fait. Ces bijoux, elle faisait feu de pauvreté en rentrant au couvent, et donc il était important pour elle qu'elle apporte ses bijoux pour le Seigneur. C'était un témoignage.
Et ça, c'est courant ou au contraire, c'est assez rare ?
Alors, à la Visitation, c'est assez courant, où une femme qui n'a qu'une petite chaîne en or et une petite croix héritée de sa grand-mère ou elle-même a beaucoup de plaisir à l'offrir au Seigneur à travers les objets sacrés, les vases sacrés, comme appellent les sœurs. Donc, on voit certains objets avec une petite croix d'or, toute simple, sur un très beau ciboire. Et à côté, vous pouvez avoir le très beau diamant d'une personne plus aisée. À la Visitation, c'est ce qui vraiment est aussi le souhait de François de Sales et Jeanne de Chantal, c'est qu'il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, tout le monde s'y retrouve dans une spiritualité qui est celle de l'amour et de la douceur si chère à François de Sales.
Voilà, notre visite s'achève ici. Nous sommes passés par toutes les pièces pour terminer par la salle forte, entourée des richesses, des objets liturgiques, des monastères. Merci à Gérard Picot, administrateur du musée Regards sur la Visitation, de nous avoir éclairé de ses connaissances. Et puis retrouvez plus d'informations sur ce musée sur notre site www.canalacademy.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.